On va parler du thème de la sexualité dans le contexte donc d'homme-femme, mode d'emploi, comment entrer dans une relation saine avec la personne de l'autre sexe. Alors, pourquoi la sexualité, c'est le thème de ce matin? Pourquoi est-ce qu'il y a cette dimension dans les relations humaines? Et la première chose qu'on veut dire, c'est que la sexualité, c'est l'idée de Dieu. Ce n'est pas comme une erreur que Dieu aurait faite une fois qu'il a créé l'homme et la femme. Il dit, oh, c'est correct, on va vivre avec ça. Non. C'était vraiment le plan de Dieu. Et Dieu a pensé à cela. Donc, c'est quelque chose de noble. Et on voit dans Genèse 2, 24, ce verset de base. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc Dieu, on l'a vu, a créé l'homme et la femme égaux, mais avec des caractéristiques différentes. Et c'est lui qui a créé aussi la dimension physique, biologique de l'homme et de la femme aussi, qui est en relation avec ce qu'est le féminin, ce qu'est le masculin. Donc, c'est son idée et à cause de cela, on parlait de honte dans notre dernier chant, ben, Dieu est l'auteur et il n'y a pas lieu d'avoir honte par rapport à la sexualité. Et si on est comme dans l'embarras quand on pense à la sexualité pour différentes raisons, ben, Dieu veut qu'on puisse être libre de toute honte. Genèse 2, 25, ça dit qu'ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Donc, ça faisait partie de quelque chose qui était naturel, qui était bon, et même très bon, une fois que Dieu a créé l'homme et la femme, il dit que c'était très bon. Genèse 1, 31, c'est ce verset. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Donc, la sexualité, dans le cadre du plan de Dieu, peut se vivre d'une manière belle, être appréciée, être dans la pureté, et non pas la source de honte quelconque. Et on voit qu'une fois qu'il y a eu le péché, dans Genèse 3, Adam et Ève se sont cachés de Dieu, ils avaient honte. Et la honte était le résultat de cette rébellion contre Dieu. La sexualité, Dieu l'a créée, ce n'était pas juste pour la procréation. Si c'était uniquement pour cela, et s'il n'y avait aucun qu'une utilisation de moyens contraceptifs, ben on aurait des immenses familles. Au Québec, on a connu ça, puis il y a peut-être deux générations de ça, des familles très grandes, jusqu'à 17-18 enfants dans les familles québécoises. C'était les prêtres qui forçaient les femmes québécoises à avoir beaucoup d'enfants parce qu'on appelait ça la revanche des berceaux. On voulait faire opposition au monde anglophone ayant beaucoup, beaucoup de petits francophones. Alors, quand la femme avait eu juste 4 ou 5 enfants, le curé venait voir la femme en disant « Qu'est-ce qui se passe chez vous, madame? Vous empêchez la famille ou quoi? » Il y avait vraiment une domination ecclésiale qui rendait la femme sous un joug de devoir avoir enfant après enfant après enfant. Alors, quand Dieu a créé la sexualité, c'était entre autres pour qu'il y ait multiplication, parce qu'il a dit dans Genèse « Allez, croissez, multipliez-vous, mais ce n'était pas le but unique de la relation sexuelle. C'était d'abord pour qu'il y ait ce rapprochement, pour qu'il y ait une joie partagée dans le couple. Alors, c'est la même chose que, par exemple, quand on mange, il faut apprendre à déguster. Moi, j'ai un défaut dans ma vie. Ma femme va me demander « Est-ce que c'est bon ce que tu viens de manger? » Je dis « Ah, j'ai oublié d'y goûter. » La sexualité, c'est la même chose. On peut manger pour vivre, puis on peut manger et déguster un bon repas. Et c'est bon pour la santé même de prendre le temps de mastiquer, prendre le temps d'apprécier un bon repas. C'est la même chose pour la sexualité. Ça peut servir à avoir des enfants, mais ce n'est pas le seul but. Enfin, on dit que le sexe fait des enfants et les enfants tuent le sexe. Parce que dans les couples qui sont mariés, une fois qu'ils ont des enfants, whoop, là, il y a des défis de continuer de vivre l'harmonie et la constance au niveau de la vie sexuelle parce que les enfants sont là, puis ça vient perturber la famille à un certain point. Donc, le but, ce n'est pas juste la procréation et que l'aspect de vouloir vivre l'intimité sexuelle pour la jouissance partagée, ça fait partie du plan de Dieu. Et l'engagement est la toile de fond. Dans le texte, ça dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il y a deux « et ». Donc, il y a un élément de progression. On quitte. Ensuite, il y a un engagement et on s'attache. Et une fois qu'on est attaché, qu'on est, c'est-à-dire engagé dans la relation, là peut se vivre la sexualité. Donc, le mandat de départ, c'est de pouvoir s'engager dans une relation jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et dans ce contexte-là, de vivre ce que la Bible dit, une seule chair, de vivre la relation sexuelle. Et c'est sa femme, c'est pas ses femmes. La polygamie a été comme tolérée dans l'histoire humaine pour différentes raisons, puis je ne comprends pas toutes les raisons. Mon constat aujourd'hui, c'est qu'au Québec, on vit la polygamie à fond, sauf que ce n'est pas tout en même temps. C'est une après l'autre. C'est ma petite observation dans notre Québec qui vit dans la débauche. Donc, et ils deviendront une seule chair, ça veut dire que là, il y a une rencontre dans le couple, dans un contexte d'abandon total, d'engagement total, je veux passer le reste de mes jours avec toi. Et c'est dans ce contexte-là que la sexualité est appelée à se vivre. C'est le plan de Dieu pour l'être humain. Donc, ce n'est pas un but en soi, mais elle s'inscrit à l'intérieur d'une alliance entre deux personnes. Et ces deux personnes de sexe opposé, on va revenir là-dessus tout à l'heure par rapport à toute la question de l'homosexualité, mais c'est l'homme s'attachera à sa femme, c'est clairement établi au départ, deux personnes de sexe opposé. Et c'est une alliance indestructible. Jésus reprend ça dans Matthieu 19, 6, il dit « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Et c'est possible de vivre un engagement pour toute notre vie. Et ça demande du travail. Ce n'est pas comme quelque chose qui se fait tout seul. Et c'est normal que ça demande du travail. Parce que l'amour, au final, ce n'est pas une émotion, mais c'est un choix. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui par rapport à ça. La personne, après 6 mois qu'elle est mariée ou à côté d'une autre personne, se réveille le matin et n'a plus les émotions d'amour. Alors, il conclut, « J'ai plus les émotions, donc je ne t'aime plus et je m'en vais, bye. » Mais l'amour n'est pas une émotion. L'amour, c'est d'abord un choix parce que c'est le résultat d'un commandement. « Tu aimeras. » « Tu aimeras » ne s'adresse pas à tes émotions. Et beaucoup de... Ça arrive souvent dans notre vie qu'on fait des choix malgré ce qu'on peut ressentir. Et quand on fait de bons choix, les émotions suivent. Moi, je prends souvent la comparaison que les gens aujourd'hui, ils se laissent tellement conduire par leurs émotions. C'est comme si tu rentres à Montréal aujourd'hui sur l'autoroute et tu mets ta remorque devant ta voiture à 100 km/h. Tu vas prendre le fossé, ce ne sera pas long. Si tu mets tes émotions devant toi pour te guider, te diriger, tu vas prendre le fossé. Vous comprenez? Alors, notre vie ne doit pas être basée sur les émotions. Les émotions ne sont pas mauvaises. Dieu les a créées. Dieu a des émotions. Mais ce n'est pas sur la base de nos émotions qu'on va persévérer dans l'amour envers quelqu'un. Quand ça dit que l'amour croit tout, espère tout, supporte tout, pardonne tout, ben, si on se basait juste sur nos émotions, on ne pourrait pas vivre cette dimension profonde de l'amour. Donc, le but de Dieu dans la relation sexuelle dans le couple, c'est pour vraiment souder le couple ensemble et nourrir cette alliance l'un avec l'autre. Donc, c'est à l'intérieur de l'engagement du mariage qu'il faut nourrir cette relation. Et un couple en santé va veiller à ce qu'il nourrissent cette dimension dans sa vie de couple. Comme dans 1 Corinthiens 7, Paul parle au couple en disant « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, vous aller à la prière, mais retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, remarquons le fait que quand Paul dit ça dans 1 Corinthiens 7, il dit « Ne vous privez point l'un de l'autre ». Donc, un couple en santé va s'assurer de maintenir cette régularité. Et beaucoup de couples ont des problèmes. Une fois mariés, on pense que c'est tout est rose. Beaucoup de couples, deux problèmes majeurs dans les vies de couple, c'est un, c'est l'argent, et deux, c'est le sexe, très souvent. C'est ça que les couples vont vivre comme difficulté. Ne vous privez point, donc Dieu dit, soyez réguliers, et d'un commun accord. Alors, c'est le texte où Paul dit, parce que ton corps ne t'appartient pas, il appartient à l'autre. Et il y a des hommes qui vont prendre ce verset-là, puis vont dire, femme, ce soir, on fait l'amour, que tu veuilles ou pas, moi j'ai des besoins sexuels. Et ça, c'est la domination de l'homme qui se perpétue dans la vie de couple. Et la femme est là, puis elle doit subir la relation sexuelle. Alors que Paul dit, le contexte ici, c'est d'un commun accord. Mon corps ne m'appartient pas, ton corps ne t'appartient pas, on est là l'un pour l'autre, mais d'un commun accord et non pas dans la domination de l'un sur l'autre. Alors ça, c'est important aussi de comprendre ça, en particulier pour les hommes qui ont tendance à vouloir dominer et imposer à partir de leurs besoins. On ne va pas aller plus loin que ça parce que ça, là, la part d'entre vous, vous n'êtes pas mariés, donc on ne va pas commencer à donner toutes sortes de conseils par rapport à cet aspect-là, mais juste de comprendre déjà maintenant que cette mentalité du commun accord, que ce soit dans la prise de décision qu'on parlait hier, ça s'applique aussi dans la vie sexuelle. Maintenant, par rapport à cela, où situer certains autres aspects dans notre sexualité? Il y a la question, par exemple, de la masturbation. Et dans le corps de Christ, vous allez avoir deux sortes d'opinions, je dirais, par rapport à la masturbation. Il y en a qui vont dire que la masturbation, ça prend sa place. D'autres vont dire, en tant que chrétien, d'autres vont dire que ce n'est pas un péché, que c'est normal, c'est correct, on a des pulsions, on a besoin d'évacuer, etc., qu'on est célibataire. Alors, quand on essaie de réfléchir par rapport à ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, il faut toujours essayer d'avoir notre cadre de référence, comme je parlais hier de point de repère. Dans notre façon de gérer nos décisions ou nos choix dans nos comportements, c'est bon d'avoir des points de repère, un cadre. Alors, si on dit que Dieu a créé la relation sexuelle pour une jouissance partagée, pour un don mutuel l'un à l'autre, alors on pense à masturbation et il n'y a pas d'élément de partage avec quelqu'un d'autre ici. C'est de la sexualité dans l'isolement. Et pour moi, à ce moment-là, ça n'entre pas dans le cadre du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Je vous cite un auteur ici, deux auteurs, par rapport à la masturbation, la pornographie, Alfred Ells, je ne connais pas le gars, mais il dit ceci, « La masturbation et la pornographie sont des façons centrées sur soi-même pour obtenir la satisfaction sexuelle. Elles sont dénuées d'intimité et de relations interpersonnelles saines. » Donc, il n'y a pas cet aspect de relation interpersonnelle saine. John White, qui a écrit un livre, en anglais, c'est Eros Redeem, en français, je ne me souviens plus, il dit « La masturbation, c'est du sexe sur une île déserte. » Pour moi, j'aime bien cette image, cet aspect d'isolement qui ne contribue pas à l'épanouissement à l'intérieur d'une relation partagée avec quelqu'un d'autre. Et malheureusement aussi, ce phénomène-là va se retrouver dans des couples mariés où la femme va être frustrée parce que son mari, alors qu'elle aimerait avoir cette intimité sexuelle avec lui, elle prend son mari en train de se masturber dans l'isolement, alors qu'elle souffre que son mari ne l'approche pas et qu'ils n'ont pas de communion partagée. Et le mari vole sa femme. Même dans le contexte du mariage, ce sont des situations qui peuvent se passer. Et Tim LaHaye, qui, avec sa femme Beverly, ont écrit le livre « L'acte conjugal, la beauté de l'amour sexuel », un des livres intéressants dans le christianisme ce qui a été écrit. Il va dire ceci par rapport à la masturbation. La masturbation, c'est un voleur d'amour. Un homme marié ou une femme ne devrait jamais priver son mari, sa femme et lui-même de la bénédiction mutuelle d'une union à cause de la masturbation. C'est un voleur d'amour dans le contexte du mariage. Puis en dehors du mariage, c'est aussi une sexualité dans l'isolement qui ne correspond pas au plan de Dieu. Alors, comment gérer vos propres décisions? Pas dans la honte ou la culpabilité, mais dans la réflexion, dans le renouvellement de votre intelligence. Dire, OK, Seigneur. Et je sais que pour plusieurs célibataires, ça peut être vraiment une lutte, mais je crois, pour l'avoir vécu moi-même aussi avant de me marier, que Dieu peut vous donner la capacité de maîtrise de vous-même par rapport à la masturbation. La pornographie, même chose, c'est dans l'isolement. Et puis, l'effet pervers, un des effets pervers de la pornographie, c'est l'impuissance. Parce que c'est prouvé, démontré, que ceux qui s'adonnent à la pornographie vont avoir de la peine à avoir une érection et une jouissance avec la vraie personne, une fois mariée, qu'ils vont avoir avec eux. Parce qu'ils ont vécu dans un monde illusoire, dans un monde maquillé, un monde irréel. Ils vont chercher ce irréel dans le réel. Ils ne seront plus stimulés sexuellement comme ils auraient pensé qu'ils le pourraient être. Donc, la pornographie peut conduire très souvent, et c'est prouvé dans les recherches, à l'impuissance sexuelle, en particulier chez les hommes. Donc, la sexualité, elle est là à l'intérieur d'un... Elle est belle à l'intérieur d'un plan divin, et elle va contribuer à l'épanouissement d'une relation, va contribuer à un rapprochement entre l'homme et la femme, et ça va nourrir l'amour partagé. On ne peut pas avoir dans la vie de couple la sexualité sans un climat d'affection. Quelqu'un a dit « l'affection et l'environnement ». Le sexe est un événement. Dans un couple, il faut qu'il y ait un environnement d'affection et le sexe est un événement. Mais s'il y a de l'affection sans sexe, il faut trouver l'équilibre aussi pour le couple. Ça prend les deux. Et on a fait allusion à ça, je pense vendredi soir peut-être, où on a parlé du fait que dans le ciel, il n'y aura plus de sexe. Non! C'est plate. Pendant l'éternité, pas de sexe. C'est quoi l'affaire? Parce qu'on se base sur quoi? Marc 12, 25. Jésus dit, « À la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. » Alors, on regarde ça, c'est plate, c'est poche, parce que la sexualité, tout ça, c'est un vrai plaisir sur la terre. Alors, moi, c'est un peu la même chose comme par rapport à la vie après la mort, on se dit, c'est poche de mourir, dans le fond, parce qu'on est bien sur la terre, puis personne aimerait mourir d'un côté, mais le meilleur est à venir. Le meilleur est devant nous. Alors, comment est-ce que Dieu, qui donne quelque chose de si bon sur terre, l'enlèverait pour le reste de l'éternité. Alors, ma pensée est la suivante. C'est qu'il n'y a rien sur terre qui peut être meilleur que ce qu'on va vivre dans l'éternité. Alors, je me rappelle la première fois que j'étais en avion, c'était en décembre 1974, vous n'étiez pas né. La plupart. Tu avais 2 ans. Oui, tu me vieillis. 1974, décembre, il fait fret au Québec. Je prends l'avion avec 2 collègues de travail, puis on atterrit à Acapulco. La porte de l'avion s'ouvre, puis une vague de chaleur entre dans l'avion. Eh bien, moi, j'imagine ceci. L'arrivée dans le ciel. Quittant cette terre, j'arrive dans le ciel, et là, dans le ciel, il y a une personne qui s'appelle Dieu, qui dit, Dieu est amour. J'arrive dans le ciel et je reçois un tsunami d'amour. Dans un monde d'amour. Alors pour moi, l'orgasme sexuel, c'est un acte prophétique parce que cette joie intense qu'un couple va vivre dans la relation sexuelle, c'est annonciateur de quelque chose de meilleur. Et c'est pour ça que rendu au ciel, on n'aura plus besoin de ça. Parce qu'on va nager dans le tsunami d'amour de Dieu. On ne va pas, nous faire mourir. Là. On va comme surfer sur la vague, si on peut dire, de cet amour-là. Et c'est pour ça qu'on n'aura plus besoin de ça. Donc, en même temps, c'est un geste prophétique. Dieu dit, voilà, vous voyez, l'homme et la femme, je vous invite à vivre un engagement dans l'amour. Déjà là, apprendre à aimer son prochain, c'est pas évident. C'est beaucoup plus facile d'aimer le prochain qui habite en Asie, par exemple, que son coloc ou quelqu'un de sa propre famille. Hein? Mais alors, quand tu vis avec la même personne, tous les jours, pendant des décennies de temps, tu apprends c'est quoi l'amour. Mais même chose par rapport à la vie sexuelle, tu développes quelque chose d'intime qui t'annonce quelque chose d'extraordinaire après. C'est un apprentissage et c'est prophétique. Alors, le problème qu'on peut vivre par rapport à la sexualité, c'est un problème d'esclavage. 1 Corinthiens 6, verset 12, Paul dit ceci, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne laisserai pas à servir par quoi que ce soit. » Et par rapport à la sexualité, si on goûte à la relation sexuelle avant le mariage, on peut tomber dans ce problème d'esclavage. Au départ, la personne va peut-être rationaliser en disant « J'ai le droit d'être satisfait. » Elle va s'excuser, elle va se justifier. Puis, une fois qu'on touche à cela, après, le désir va augmenter, la personne va dire « Mais il faut que je sois satisfait. Je dois, je parle juste le droit, je dois être satisfait. » Et puis ensuite, une habitude va s'enraciner. Et John White a dit ceci dans son livre « Eros Redeemed ». La tentation au péché sexuel est le premier stratagème de Satan pour affecter notre habileté à nous battre. Il a fait de la sexualité un moyen idéal de contrôle sur l'humanité. Et je crois que c'est le cas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est amplifié à tout azimut, que ce soit le concubinage, les relations sexuelles, homosexuelles, les relations à trois, les échanges de couple, ce qu'on appelle vulgairement aussi le « fuck friend », que tu as quelqu'un qui est là juste pour faire l'amour, puis après ça, aucun engagement, juste pour te satisfaire. Il y a toutes sortes de choses qui se vivent maintenant qui fait que l'humanité, elle est un peu perdue. Un autre auteur, Dean Sherman, dans son livre en anglais « Love, Sex and Relationships », il dit « je l'ai traduit en français, « Le sexe n'est pas un besoin de base, c'est une fonction de base. L'activité sexuelle est optionnelle pour une personne. Nous pouvons vivre avec et nous pouvons vivre sans elle. » C'est une réflexion. À vous de réfléchir à ça. Parce que parfois, on peut dire, je la mets ici, ce que je n'avais pas mis, ce n'est pas un besoin de base. On peut vivre une vie entière sans exprimer notre sexualité de manière concrète. Et bien sûr, on vit dans un monde où la tentation est une réalité et on n'a pas à se sentir coupable parce qu'on est tenté. Jésus a été tenté en toutes choses sans commettre le péché. Et comme je l'ai mentionné déjà hier, on ne peut pas empêcher un oiseau de faire une crotte sur sa tête, mais on peut l'empêcher d'y faire son nid. Je pense que c'est Billy Graham qui a peut-être dit ça, qui est décédé récemment. Donc, on n'a pas à se sentir coupable parce qu'on a des tentations, mais c'est la manière qu'on va réagir. Je ne suis pas responsable du premier regard, mais du deuxième, un autre va dire. Comprenez? Notre regard, on accroche à quelque chose qui peut être source de tentation, mais qu'est-ce que je vais faire avec mon deuxième regard? Et c'est là que les hommes, en particulier, on doit faire attention à notre regard. On est davantage stimulé par le regard que la femme peut l'être. Et la sexualité aussi peut devenir
pour certaines personnes, est devenu un refuge. On a parlé de ça hier, donc je vais me permettre d'aller un peu plus vite par rapport à ça. Mais souvent, on va vivre une déviance sexuelle comme quelque chose pour couvrir des carences affectives dans notre vie. Et Dieu veut aller au plus profond de nos besoins. Et les sources possibles de ces carences-là, ça peut être des blessures d'enfance, des situations où on était abusé sexuellement, victime d'inceste, de viol, ou autres situations terribles vécues, ou avoir vécu des expériences prématurées, négatives, dans le domaine sexuel. Alors, Dieu veut aussi guérir, toucher ce domaine-là de notre vie. On a parlé hier comment est-ce que Dieu veut venir nous construire intérieurement. Et je pense qu'un des plus beaux exemples de dépendance dans la Bible à laquelle Jésus s'est adressé, c'est quand il a parlé avec la Samaritaine. Vous trouvez ça dans Jean, chapitre 4. Une rencontre formidable de Jésus avec une femme qui avait eu 5 maris et qui vivait avec un 6e avec qui, maintenant, elle s'est dit comme une bonne Québécoise, « Je ne me marie plus maintenant, je m'accote. » Elle n'était pas mariée avec le 6e. Mais Jésus savait ça d'elle. Quand il s'adresse à elle au puits, il la rencontre au puits, puis il lui dit, « Si tu savais qui j'étais, c'est à moi que tu demanderais de l'eau. » Puis elle dit, « Mais tu n'as pas de cruche, me prends-tu pour une cruche? » Et puis il lui dit, « L'eau que j'ai à t'offrir, si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. » Aïe, aïe! Aide-moi cette eau-là, comme ça je ne viendrai plus au puits. Puis là, il dit, « Elle ne comprend rien. C'est plutôt elle la cruche ou quoi? » Fait qu'il dit, « Va chercher ton mari. » Fait qu'il lui tente un appât. Elle dit, « J'ai pas de mari. » C'est vrai, tu as raison. Tu as eu 5 maris, celui avec qui tu vis, tu n'es pas marié avec. Alors, Jésus parlait d'eau. D'eau vive qui allait étancher sa soif profonde. Il parlait à une femme qui avait soif. Puis sur notre planète Terre, beaucoup d'entre nous, nous sommes des hommes, des femmes qui avons soif. Et de la même manière qu'on a parlé hier que le bonheur, c'est la relation avec Dieu, Jésus dit à cette femme-là, arrête de chercher dans un homme ton bonheur. Il y a quelque chose par le Saint-Esprit en toi qui va venir te remplir intérieurement. Alors, par rapport aux dépendances qu'on peut vivre, Jésus, dans cette relation avec la Samaritaine, je trouve que c'est un bel exemple d'une rencontre où il offre quelque chose à tout être humain pour remplir le centre affectif. Et il faut croire à cette réalité-là, que c'est possible. Alors, on a besoin de rétablir l'ordre de Dieu selon son intention à lui, dans le domaine de la sexualité. Et comment est-ce qu'on amenait le désordre présentement dans notre société? Peut-être, je ne sais pas, dans ta propre vie, je ne sais pas où tu es rendu, tes expériences de vie, mais le désordre va s'installer dans la société alors qu'on commence par une conquête sexuelle. Et c'est ce que les médias, c'est ce que la télévision, les films nous font croire, c'est que dès la première rencontre ou la première semaine, voilà, les gens se retrouvent dans le lit ensemble. Et ensuite de cela, certains vont donc précipiter la relation. Ils vont créer un lien précipité. Peut-être qu'il y a un attachement là, qui va se faire. Dire, on veut continuer de vivre ensemble sans avoir pris le temps de se connaître l'un l'autre. Puis là, tout à coup, on est devant un fait accompli. On est ensemble. OK, on va voir comment on peut apprendre à s'aimer l'un l'autre. Et la maison se bâtit sur le sable, et pas bâtie sur quelque chose de solide. Et certains, s'ils croient au mariage, parce que beaucoup de gens ne croient plus au mariage aujourd'hui, certains, s'ils croient au mariage, ils vont le faire de manière prématurée. Il n'y aura pas eu de lien solide établi entre eux, et ils vont entrer dans une relation d'engagement qui peut être très chambranlante. Je ne sais pas qui a dit ça, je ne sais pas si c'est moi qui ai dit ça ou quelqu'un d'autre, je n'ai pas la référence. Ça m'arrive des fois de dire des choses qui tiennent la route. Vous pouvez toujours construire une relation intime sur la base d'un engagement, mais vous ne pouvez jamais construire un engagement sur la base d'une relation intime. Un engagement ne doit pas être basé, il doit pas se fonder sur une relation intime, il doit se fonder sur apprendre à se connaître l'un l'autre, à découvrir la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour notre, pour le, ce couple-là. Et à partir de là, on peut vivre un engagement. Dans quel ordre doivent se faire les choses? On connaît probablement la plupart d'entre nous les différents termes utilisés dans la Bible pour le mot amour. Il y a l'amour agapé. Alors, dans une relation homme-femme, c'est l'amour fraternel avec Jésus au centre, Dieu au centre, et on apprend à se connaître l'un l'autre d'une manière simplement frère, sœur. Et il y a l'amour philia, qui là, c'est une amitié. On entre dans un temps où on partage nos rêves, nos désirs, nos projets, nos goûts, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Et puis, il y a quelque chose qui s'installe, c'est le mot amitié. Et comme a dit Christiane hier, ça, c'est quelque chose qui va durer toute la vie. Dans un couple, l'autre doit être notre meilleur ami. Si ce n'est pas le cas, s'il y a quelqu'un d'autre qui est meilleur ami que dans le couple, ding, 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 danger, la cloche sonne. Et à partir de là, ben, il y a ce qu'on appelle les fiançailles, c'est-à-dire on s'engage à se marier, on suit un cours de préparation au mariage, et en passant, pour moi, un bon cours de préparation au mariage, c'est avant et après le mariage. Souvent, on prépare les couples avant le mariage, puis après on dit que Dieu vous bénisse. Bye! On doit accompagner après, parce que c'est dans les premières années après que il y a des gens, « Wow, on ne savait pas ça! Ouh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Au secours! » On n'ose pas téléphoner. « Au secours, ça ne va pas bien, on est gêné, on a honte, alors que c'est normal d'avoir des défis. » Alors, nous, on n'a pas fait beaucoup de préparation au mariage, mais notre cadre de référence, c'est de dire « On vous accompagne avant, puis on fixe rendez-vous, 5 rencontres au moins dans les 2 années qui vont suivre votre engagement devant Dieu. » Prendre un café, biscuits ensemble, et puis, comment ça va? On jase. Alors, c'est pas juste dire, on prépare, puis Dieu vous bénisse et good luck, mais on vous accompagne. Et, une fois marié, ben, c'est l'amour éros, c'est l'amour sexuel. Et c'est là que ça devient, c'est beau. Ça devient, on le fait dans la liberté, puis il y a le sentiment que c'est le plan de Dieu, c'est l'idée de Dieu. Et on entre dans ce qu'il a préparé pour nous d'avance. Ça fait partie des choses qu'il prépare d'avance pour le couple. Et là, on entre dans la découverte de cette relation au niveau physique. Alors, ça veut dire, au niveau concret, puis là, quelques petits conseils pratiques par rapport à ça, parce que des fois, il y a des questions qui se posent. C'est-à-dire, OK, il faut qu'on se mette des limites. En tant que célibataire dans une relation, on dit que le sexe, c'est comme le feu. Ça réchauffe ou ça brûle. Ça réjouit ou ça détruit. Même qu'on va... J'ai vu ça dans des vies de couple. Aujourd'hui, malheureusement, le sexe se termine avec le mariage, très souvent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les couples, même chrétiens, vont... Menés vont explorer la vie sexuelle avant de se marier, puis une fois mariés, pour des raisons qui vont les surprendre, dire on a la misère à avoir des relations sexuelles maintenant. On avait du fun quand on n'était pas mariés. Comment ça fait qu'aujourd'hui on a des problèmes? Parce qu'il y a quelque chose qui a brisé le fonctionnement que Dieu avait voulu pour la personne. Alors, il faut donc mettre les choses dans l'ordre. On vient de voir le désordre et l'ordre. Alors, ce n'est pas le sexe d'abord, c'est le sexe dehors, quand on est célibataire. Mettre la priorité sur la communion, la communication verbale. Alors, pratiquement, éviter les lieux de tentation. 2 personnes toutes seules, assises sur un lit dans une chambre, ce n'est pas une bonne idée. Ou dans une voiture, ou sous une tente. Pas une bonne idée. Alors, il faut faire attention aux pierres d'achoppement, garder une saine distance par rapport au toucher, par rapport à votre façon de vous présenter à l'autre au niveau de votre habillement, etc. Quand quelqu'un a posé la question une fois, où est-ce qu'on doit s'arrêter dans les contacts physiques, la réponse de cet orateur était de « tu t'arrêtes avant de commencer ». Je me souviens, une fois, il y avait ce jeune homme qui me parlait, il était fiancé, puis il me dit « René, il dit, je suis un peu inquiet, parce que ma fiancée et moi, on a fait un pacte qu'on allait avoir zéro contact physique avant de se marier. Comme pas se toucher la main, pas se prendre la main, pas s'embrasser. Est-ce que tu penses qu'on va avoir des problèmes sexuels une fois mariés? » Moi, j'ai partagé l'image suivante. Je dis, absolument pas. Je dis, c'est comme, prends l'image d'un barrage. Tu mets ton barrage avant de te marier, là, puis l'eau s'accumule. Puis quand tu te maries, tu ouvres les vannes. C'est ça qui va se passer. Tu n'as pas à t'inquiéter que tu n'es pas normal. Mais ils avaient fait un pacte entre eux de marcher dans la pureté, dans la sainteté. Alors, Christiane et moi, on est une race à part, peut-être aussi, on est comme ce couple-là, hein? Quand on s'est fréquenté, ma femme et moi, j'avais vécu dans le monde avant, et puis je me suis converti à 24 ans, à 26 ans, on a commencé à se fréquenter, et dans ma tête, je vais expliquer que c'était un problème que j'avais quand même, mais dans ma tête, je m'étais dit, pas de contact physique avec Christiane, mais pas lui donner la main jusqu'aux fiançailles. Et aux fiançailles, on a commencé à se donner la main. Et ma femme, elle aurait voulu que je donne la main bien avant. Mon problème, là, je dis, mon problème, c'était que je n'avais pas dit ça à ma femme, à ma future femme. Que, écoute, voilà, manque de communication, René Laframboise. Bon. Mais l'idée était là, je ne voulais pas mettre le côté physique avant. Je voulais m'investir au niveau relationnel, c'était mon objectif. J'aurais dû le partager avec Christian. Et puis, j'ajoute une autre chose. C'est qu'à partir de nos fiançailles, on s'est contenté et limité, c'est pas obligé de faire comme nous, mais quand même un exemple pas si pire, à des baisers du bout des lèvres. On s'est arrêté là. No French kiss. Pas de baisers profonds jusqu'au mariage. Donc on dit, oh, ben là, René, t'exagères pas mal, tu mets l'échelle assez haute, là. Mais je l'impose pas. Mais je vous dis que ce genre de baiser, c'est stimulant, c'est excitant, et puis c'est très bon dans le contexte d'une relation sexuelle complète une fois mariée. Donc, le toucher. On a vu des couples qui fiançaient, qui se caressaient les organes génitaux, et qui avaient des attouchements, etc., et qui, en même temps, vivaient des conflits relationnels. Puis là, parce qu'ils étaient comme engagés physiquement d'une certaine manière, sans avoir nécessairement fait une relation sexuelle complète, avaient beaucoup de peine à gérer cette dimension de « est-ce qu'on est vraiment fait pour être ensemble? » quand ils avaient des conflits, parce que là, ils étaient liés émotionnellement, puis c'était comme ça les attachait, vous comprenez? Il y avait un attachement avant l'engagement. Et des fois, il faut que l'engagement soit cassé, mais quand tu es lié physiquement, c'est difficile à casser cet attachement-là. Une citation. Si tu n'es pas satisfait avec la communion spirituelle, la communication, tu n'es pas en amour. Si tu es avec quelqu'un que tu fréquentes, qui veut absolument avoir de vivre quelque chose de physique avec toi, dis-toi qu'il ne t'aime pas vraiment. C'est peut-être un peu raide comme affirmation, mais j'aime les affirmations raides à certains moments. Il faut appeler noir ce qui est noir, blanc ce qui est blanc. Alors, s'il y a dans ta vie, présentement, et encore je ne connais pas vos vies, là, une personne avec qui tu as des rapports sexuels présentement dans ta vie, et peut-être que je m'adresse à personne ici, peut-être que plusieurs, je ne sais pas, que faire? Première chose à faire, c'est pour réparer, c'est confesse à l'autre. C'est, écoute, j'ai pris conscience que toi et moi, ou moi envers toi, j'ai un comportement inacceptable, qui est en dehors du cadre de ce que Dieu veut pour nous, et je te demande pardon. Maintenant, dépendant de ce partenaire, parce qu'il y a toutes sortes de partenaires possibles, et des partenaires où c'est une aventure purement sexuelle, on appelle ça la fornication, où il y a, c'est un cas d'homosexualité, où c'est un cas de relation avec quelqu'un déjà marié, avec quelqu'un d'autre. Alors, la prochaine étape, c'est tu renonces au partenaire. Tu coupes la communication, tu coupes la relation, tu expliques à la personne. Matthieu 5, 29, 30 dit « Mieux vaut si ton œil a une occasion de chute, arrache-le, si tu amènes une occasion de chute, coupe-la. » C'est bien sûr, c'est pas littéral, c'est symbolique, là. Hein? Certain. Mais il y a un élément de renoncer. Si tu es dans une relation qui est quand même plus sérieuse, où il y a un certain engagement, l'idée de fiançailles, mais qu'en tant que couple, vous avez ensemble vécu des choses que vous pensez que finalement, ce n'est pas juste, il y a un élément ici de vraiment revoir la relation ensemble, de confesser l'un à l'autre et de chercher la face de Dieu. Seigneur, est-ce que la priorité qu'on a mise, la dimension physique, est-ce qu'elle est indicative qu'il y a quelque chose qui est immature dans notre relation de couple, clairement, qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, ou est-ce qu'on doit simplement, que maintenant, on prend une saine distance et on continue notre relation, mais en mettant les choses à la bonne place. Alors, j'arrive à ma conclusion, il est 11h30. Alors, la question de base, c'est une question d'adoration. Avoir les yeux fixés sur Dieu, adorer le Créateur et non pas la créature, être des adorateurs. C'est intéressant qu'avec la Samaritaine, ils ont parlé d'adoration dans la conversation après. La Samaritaine avait une discussion théologique. Où est-ce que vous, les Juifs, vous adorez telle place, puis nous, Jésus dit, ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit, en vérité. Alors, il remettait Dieu au centre. Alors, remets Dieu au centre dans ta vie, adore-le lui, contemple-le lui, mets-le au centre, et les choses vont se mettre à leur place. Donc, quand on parle de ne pas être conformiste, c'est un peu la synthèse pour la fin de cette semaine, de cette fin de semaine. Ne sois pas conformiste, ne te laisse pas séduire par les pensées du monde, les pensées de l'ennemi qui veut détourner, détruire la société, mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Comprends les pensées de Dieu. Romains 1 nous parle que les gens sont devenus sans intelligence, et je pense, sans avoir un mépris pour notre société a besoin de retrouver la vérité. Elle est sans vérité, sans point de repère, sans balise. Et le corps de Christ, si on comprend intelligemment la parole de Dieu, eh bien, on a des choses à contribuer. Et soumets-toi à Dieu complètement, ton corps, tes pensées, ta vie, et à ce moment-là, ça va être pour toi bon, agréable et parfait, et tu vas être heureux sur la terre. Donc, gardons Dieu au centre de notre adoration. On va prier. Dieu, on veut t'adorer parce que tu es l'auteur de tout et de tout ce qui est bon vient de toi. Et tu as pensé, tu as voulu la sexualité pour le bonheur de tes enfants, pour le bonheur d'un homme et d'une femme engagés l'un avec l'autre, comme étant un acte aussi prophétique pour la joie immense, inexprimable qu'on va expérimenter quand on va entrer dans les cieux avec toi pour l'éternité, où il n'y aura plus besoin de cette dimension-là parce qu'on sera comblé avec toi. Mais merci pour cet acte prophétique. Merci pour toutes sortes de joies que tu nous donnes sur la terre, incluant cette perspective pour ceux qui sont célibataires, cette perspective de l'intimité sexuelle. Et merci de nous préparer maintenant et de nous purifier, nous sanctifier. Et je pense à ce passage dans 1 Corinthiens 6 où Paul parle de ceux qui vivaient dans l'homosexualité ou l'adultère ou autre chose. Et il dit ceci aux Corinthiens, « Mais c'est là ce que vous étiez certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que tu veux pour chacun d'entre nous, des hommes, des femmes, qui vont marcher dans la sainteté, dans la retenue, dans la maîtrise de soi, pour te glorifier. Et fais de nous des adorateurs avec tout notre être entier. Le monde de nos pensées, tu vois les luttes qu'on peut avoir dans ce monde-là. Seigneur, rends-nous forts par ton Esprit Saint, dans nos actions, dans nos regards, dans nos gestes, dans les choses qu'on peut avoir appris à vivre dans la solitude de notre chambre ou devant notre ordinateur. Merci que tu es le libérateur. Merci de laver, libérer, sanctifier. Tu n'es pas là pour condamner. Il n'y a pas de condamnation en toi, mais il y a libération en Jésus-Christ. Et merci de nous aider à nous préserver, sachant que le meilleur est à venir, Seigneur, sur terre et puis ensuite pour l'éternité. Alors, on te bénit ce matin. Merci pour la vérité, l'intelligence que tu nous donnes. Et merci de nous aider à être de bons communicateurs de cette connaissance-là, parce que c'est dit dans la parole, « Sans connaissance, mon peuple périt. » Et ton peuple du Québec périt faute de connaissance. Et qu'on soit des ambassadeurs avec ton intelligence, une intelligence spirituelle. Qu'on saisisse les choses spirituellement, parce que c'est spirituellement qu'on peut juger ces choses-là, par ton esprit et ta parole. Alors, on te rend grâce pour tout ce que tu mets à notre portée, et que tu vas nous aider. Et je te demande de bénir mes frères et sœurs ici, que tu les fortifies. Et comme tu dis dans ta parole, tu es venu pour transformer et pour rendre inébranlable ton Église. Et merci de rendre mes frères et sœurs, moi inclus, ma femme inclus, nous rendre inébranlables jusqu'à ce que tu reviennes, Jésus.